Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 27 février. France Nature Environnement apporte son soutien à l'OFB. Laurent Wauquiez, lui, persiste et signe et enfonce le clou. Nous l'écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. La commune de Genet serait-elle devenue bonne élève en matière de logement social? Réponse dans ce quart d'heure lyonnais. Deux condamnations hier pour deux chauffeurs. Le drapeau du centre LGBTI+ de Lyon, rue des Capucins, sur les pentes de la Croix-Rousse, arraché le week-end dernier. Et puis dans cette édition, nous visiterons également la Maison de l'Environnement à Gerland, un lieu emblématique dédié à la sensibilisation et à l'action en faveur de l'environnement. Pour les vacances scolaires, on peut notamment y retrouver des rendez-vous de nature.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. France Nature Environnement apporte donc son soutien à l'OFB et aux agents chargés de vérifier la conformité des exploitations, une institution clé du contrôle de la biodiversité en France. 60% des terres agricoles sont dégradées par des pesticides, par l'arrachage des haies et par des pratiques agricoles qui détruisent la qualité des sols et des eaux, défend la FNE, qui réaffirme son soutien donc à l'Office français pour la biodiversité. Ses rôles d'appui aux politiques publiques de connaissance, d'expertise et de police de l'environnement sont indispensables et indiscutables. L'Office est au service de tous les Français, y compris au service des agriculteurs, martèle la FNE. Pour autant, Laurent Wauquiez a enfoncé le clou hier en visitant le Salon de l'agriculture à Paris.
On a la chance d'avoir une agriculture familiale qui fait des produits de terroir, qui est sans doute une des plus respectueuses au monde de l'environnement. Et on traite nos agriculteurs en leur mettant des normes, en les harcelant de contrôle, et avec un organisme, l'OFB, qui vient contrôler nos agriculteurs avec un pistolet à la ceinture. Est-ce qu'on va contrôler un restaurateur avec quelqu'un qui vient avec un pistolet à la ceinture? Est-ce qu'on vient faire une inspection dans une entreprise avec quelqu'un qui a un pistolet à la ceinture? Est-ce que les contrôles sont faits par des organismes comme l'OFB, dont certains agents ont explicitement dit qu'ils considéraient les agriculteurs comme des dealers de drogue? C'est juste pas acceptable. Et il y a un moment, il faut dire stop. Et donc on a affaire à un organisme qui est pour nous sorti de ce qui est sa raison d'être initiale, qui est devenu un organisme militant, idéologique, et qui en fait est dans le harcèlement de l'agriculture au lieu de la soutenir et de la protéger. On considère que c'est exactement ce qu'il faut combattre dans notre pays. Nos agriculteurs, ils ont besoin qu'on les encourage, ils ont besoin qu'on les aide, ils n'ont pas besoin qu'on les harcèle de contrôle. Honnêtement, je pense que s'il y a des gens qu'il faut contrôler, c'est sans doute pas par nos agriculteurs que je commence.
Laurent Wauquiez, conseiller spécial du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 271 agriculteurs de toute la région se sont par ailleurs unis pour rédiger une lettre justement à Laurent Wauquiez. La crise de l'agriculture, ce n'est pas l'OFB. Il nous prend en otage et parle à notre place, écrivent-ils. Il divise tout le monde et ce n'est pas digne d'un représentant de l'État, estiment les agriculteurs. La préfète de région écrit pour sa part un courrier aux paysans. Personne ne peut raisonnablement croire que l'OFB serait la source de tous les maux de l'agriculture française. Nous assurons également l'Office français de la biodiversité de notre soutien, conclut la représentante régionale de l'État. La préfète de région s'est rendue à Genet hier après-midi. Fabienne Bussiot a voulu montrer que la bonne volonté et le courage affiché par le premier magistrat d'une commune s'avère payant. L'arrêté de carence prononcé fin 2023 à l'encontre de la commune est en effet levé. Genet comptait 17,7% de logements sociaux, loin des 25% imposés par la loi. L'État a fixé l'objectif à la commune de réaliser 53 nouveaux logements sociaux entre 2023 et 2025. Avec 62 logements sociaux supplémentaires, la commune dépasse déjà son objectif et atteint 19,3%. La maire Valérie Giraud se dit déterminée à poursuivre l'action sur l'urbanisme raisonné. L'arrêté de carence doit aussi être levé pour une autre commune, la Mulatière.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Un bébé de 17 jours, la petite Talia, qui trouve la mort dans un accident de la route sur l'A9. Dans un terrible accident, les faits s'étaient déroulés en juillet 2021 à 22h20, le 5 juillet. La famille oulinoise était presque arrivée à Agde dans l'Hérault pour y passer des vacances lorsqu'un étudiant vient percuter leur voiture par l'arrière, roulant à 146 km/h. Un jeune homme qui roulait ivre avec une alcoolémie de 2,62 g. Deux ans plus tôt, son permis avait déjà été suspendu à cause de l'alcool, déjà pour un contrôle à 2,40 g. 1936. Il est aujourd'hui étudiant en japonais à Toulouse. Il a passé en tout cas 14 mois en détention préventive, n'a plus retouché un volant et soigne sa dépression et son addiction à l'alcool par un suivi psychiatrique régulier. La procureure a réclamé 5 ans de prison ferme et un mandat de dépôt à la barre. L'avocat de la défense a demandé lui la clémence. Le tribunal a finalement tranché annulation du permis pour 6 ans, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire. L'étudiant ne retournera pas en prison compte tenu de sa détention préventive. Et puis on se souvient aussi de la mort de Camille, 20 ans. Cette cycliste avait été fauchée lors d'un accident Quetilcite l'an dernier. Le chauffeur a reconnu pour la première fois avoir bu de l'alcool, mais a affirmé ne pas se souvenir de l'accident, malgré un appel téléphonique à sa compagne survenu quelques secondes après le drame. L'enquête a révélé qu'il circulait à près de 100 km/h sur le Quetilcite, en pleine zone 30. Le conducteur est condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire et une obligation de soins. Il reste ainsi en détention. Son permis de conduire lui a également été retiré avec interdiction de le repasser pendant un an. Le drapeau du centre LGBTI+ de Lyon, rue des Capucins, sur les pentes de la Croix-Rousse, a été arraché le week-end dernier. Ce geste de haine rappelle l'urgence de continuer à lutter pour l'égalité et les droits de toutes et tous, a déclaré sur X la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Chérifi. Suite à cet incident, le centre a annoncé porter plainte. Il ne s'agit pas d'une première. Le centre a déjà été vandalisé. Le drapeau a déjà été arraché à plusieurs reprises sur la façade.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
En période de vacances scolaires, mais aussi toute l'année, il est possible de dégoter des activités en lien avec la nature grâce à la Maison de l'Environnement. Située avenue Tony Garnier, près de la halle éponyme, c'est un lieu emblématique dédié à la sensibilisation et à l'action en faveur de l'environnement. Depuis sa création en 1994, cette association joue un rôle essentiel dans la promotion du développement durable et de la transition écologique sur le territoire lyonnais. Chacun peut s'informer, échanger et s'engager pour la protection de l'environnement, puisque la maison accueille quelque 70 associations et partenaires, tous mobilisés autour des enjeux environnementaux. La Maison de l'Environnement vient d'ailleurs d'éditer, avec 3 autres acteurs, une plaquette répertoriant les 1001 façons de s'engager à travers quelques dates clés du calendrier. Nous avons rencontré Clémence Brugman, c'est la directrice de la Maison de l'Environnement.
Donc la Maison de l'Environnement, c'est déjà un lieu et c'est un projet interassociatif autour des enjeux de transition écologique et solidaire. On a 70 adhérents, 70 assos qui adhèrent et qui bénéficient dans ce cadre-là de services mutualisés. Donc on a un plateau de salles qui leur sont mis à disposition et elles peuvent ainsi se regrouper, travailler ensemble ou seules évidemment, et puis accueillir des publics. On mutualise aussi du matériel, des temps de réflexion. On est là pour faciliter l'interconnaissance et la coopération entre les assos. Et on est aussi un lieu ouvert plus largement aux habitants du territoire, un lieu ressource autour des enjeux de transition. Ça se matérialise surtout par une médiathèque spécialisée, hyper ouverte. Ça fonctionne un peu comme une médiathèque du réseau de lecture publique. On peut venir y traîner un après-midi, jouer, puisque du coup, on a plein d'entrées, des romans, des BD, de la littérature jeunesse, des jeux, toujours autour des enjeux de transition écologique. Évidemment aussi des guides et des essais pour les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin dans les réflexions autour des enjeux de transition écologique et solidaire.
Quelques exemples de structures qui sont accueillies ici ou qui passent par ici ?
Parmi les assos, on a donc des expertises assez variées. On a des assos qu'on qualifie de naturalistes, qui travaillent sur les enjeux de biodiversité. Donc les plus connus, ça va être la LPO, FNE. On a aussi Arthropologia autour des pollinisateurs sauvages. Et après, on a des assos plus généralistes qui travaillent autour des enjeux. Alors ça peut être de prisme. On parle de, par exemple, Anciela, qui travaille autour de l'engagement, The Greener Good autour de la consommation responsable, des assos très thématiques autour du voyage engagé, par exemple avec On the Green Road. Enfin voilà, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a 70, mais vraiment on a un panel assez complémentaire d'associations qui travaillent sur les enjeux, et on est sur une vision quand même encore un peu large de la question de l'environnement, avec quelques assos patrimoniales qui font partie des assos adhérentes. Elles sont désormais un peu à la marge, mais c'est aussi le fruit d'une histoire, puisque la maison à 30 ans.
Elle était située rue Sainte-Hélène, hein, c'est ça ?
C'est ça. Dans ses premières années, elle était rue Sainte-Hélène et on est désormais dans le 7e avenue Tony Garnier. Avec, à la différence des premiers locaux, on est vraiment maintenant dans une maison qui n'héberge que l'équipe de la Maison de l'Environnement. Donc les assos ont leurs propres locaux et peuvent venir bénéficier d'espaces complémentaires pour travailler.
Pourquoi c'était important de faire ce calendrier, la mille et une façon de s'engager près de chez moi ? Pourquoi vous êtes partie prenante de cette aventure ?
C'est le propos de la Maison de l'Environnement, celui de dire qu'il faut mutualiser. C'est important de se connaître et d'interagir quand on fait partie d'un même écosystème, qu'on est plus lisible quand on communique ensemble parce qu'on arrive comme ça à écrire nos complémentarités. Donc on a voulu être artisans de ça. Alors nous-mêmes, on ne propose pas d'événements ou de défis, mais on donne à voir une dynamique commune. Et puis sur le calendrier plutôt version web, on y rappelle qu'on est un lieu ressource et qu'on peut aussi au quotidien trouver à la maison un interlocuteur pour bien s'orienter vers les enjeux.
Votre rôle, c'est un peu de générer du commun ?
Effectivement, de générer du commun là où il s'écrit, c'est-à-dire qu'on va être facilitateur, mais il est évident que les 70 assos ne trouvent pas toutes ensemble les mêmes terrains de jeu. Mais là où se crée du commun, eh ben, on va le faciliter, l'encourager.
Comment on arrive à mobiliser, y compris les gens qui sont, allez, admettons, climato-sceptiques ?
Eh bien, c'est pas simple. Alors là, dans cette dynamique de faciliter l'engagement, on s'adresse plutôt à un public qui va déjà être un peu interpellé. On ne va pas aller chercher les personnes qui sont vraiment encore trop éloignées et dans le déni ou dans la remise en question de la cause humaine du réchauffement climatique. Par contre, à travers d'autres dispositifs, on travaille sur ces questions, notamment autour des enjeux croisés de l'éducation aux médias et à l'info et de lutte contre le climato-scepticisme. En fait, souvent, ça se joue aussi dans la manière dont on reçoit l'info et dans les boucles dans lesquelles on est enfermé. Donc, on essaye un peu de travailler sur ces questions à travers cet angle-là. Mais voilà, on est assez humble dans nos capacités aussi à aller chercher des personnes qui sont vraiment très éloignées et qui sont coincées dans une logique qui ne leur fait pas voir, une sorte d'incompréhension entre ce qu'on propose et ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Donc, à travers ce calendrier, c'est pas tellement à ce public-là qu'on s'adresse.
L'important, c'est quand même de sensibiliser aujourd'hui. Hein, c'est vraiment le leitmotiv de toutes les associations.
C'est ça, sensibiliser. Alors, il se trouve que on commence quand même à se dire l'info passe. La majorité des personnes avec lesquelles on interagit, elles savent plus ou moins bien, mais la plupart ont compris qu'il y avait une problématique très importante. Il y a quand même encore un enjeu de comprendre presque les curseurs et les ordres de grandeur, donc c'est beaucoup sur ça qu'on communique. Et après, c'est aussi le propos de ce calendrier, c'est donner à voir que face à cette problématique que tout le monde a un peu repérée, tout n'est pas perdu, parce qu'en fait, on rencontre quand même beaucoup de gens qui se sentent presque coincés dans une voiture qui va vers le mur, mais comme si on n'avait pas la possibilité de quand même mettre le frein à main. Et donc, en fait, à travers ces événements, on vient montrer que en fait, il y a encore plein de choses à faire. On peut collectivement décider que on ne va pas se prendre le mur. Et voilà comment on peut le faire. En gros, redonner foi dans nos capacités aussi à changer les choses, quoi. Et c'est beaucoup de ça que les gens ont besoin, je pense.
Et les changer de façon aussi individuelle. On a souvent aussi ce discours de dire, de toute façon, nous seuls, on ne pourra pas y arriver, ou la France ne pourra pas y arriver, il faut que le monde entier soit... Comment vous traitez ce discours ?
Bah, y a effectivement ce qu'on appelle un peu le triangle de l'inaction, où tout le monde se regarde pour dire c'est à lui de commencer en premier. Finalement, on n'est pas tellement face à ce discours dans les événementiels dans lesquels on va, parce que en fait, c'est des personnes qui ont un peu dépassé ça, et qui voient aussi, et en fait, c'est là-dessus qu'on communique, c'est certes à nous seuls, on changera peut-être pas la donne, mais en fait c'est justement ça, redonner l'intuition et la conviction qu'en tant que citoyen, on est individuellement en capacité d'agir et collectivement, c'est-à-dire que, et c'est le propos des associations, en fait, faire association, c'est aussi regagner en pouvoir d'agir sur les dimensions collectives. Et donc, en s'engageant dans une association, on vient aussi changer autre chose que soi-même. Et donc, tout peut changer.
Clémence Brugman, directrice de la Maison de l'Environnement au 14 avenue Tony Garnier. Enfin, un mot de sport. Près de 150 supporters ont suivi l'entraînement en public du Loup Rugby hier sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland. À 3 jours de la réception de Toulon, on a pu constater la présence de plusieurs joueurs de retour dans l'effectif lyonnais, comme l'ailier international italien Monty Yohan, qui semble remis de sa blessure, l'ayant empêché d'affronter la France dimanche dernier. Dylan Crotin et Léo Berdeux, libérés par le staff du 15 de France, étaient aussi présents. Le deuxième ligne international argentin Thomas Lavanini et le demi de mêlée Charlie Cassan ont aussi participé à cet entraînement. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition et la dernière de la semaine. Bonne journée.